Il y a plus. Non seulement les règles du droit ne résultent pas nécessairement de la nature de la société, puisqu'elles peuvent demeurer cachées au fond des choses si quelque législateur ne les distingue et ne les produit à la lumière, mais, si nous en croyons Montesquieu, elles peuvent même avoir une autre forme que celle qui résulte des causes dont elles dépendent. Il attribue en effet aux sociétés humaines je ne sais quelle faculté de s'écarter de leur propre nature. Les hommes ne suivraient pas les lois naturelles inhérentes à leur constitution avec la même nécessité que les choses inanimées, mais pourraient de temps en temps secouer le joug. Montesquieu introduit donc dans les choses sociales une contingence qui, du moins à première vue, semble ne pas pouvoir s'accorder avec l'existence d'un ordre déterminé. Car s'il en était ainsi, les rapports entre cause et effet ne demeuraient pas constants et immuables. Aussi importe-t-il de définir ce qu'est cette contingence, car il est bien à craindre qu'elle ne détruise les fondements mêmes de la science sociale. Peut-être pensera-t-on que Montesquieu l'a posée en principe parce que, si on l'a supprimée, la liberté humaine, elle aussi, apparaîtrait supprimée. Mais si c'était là la vraie raison, cette contingence serait sans exception, et elle s'étendrait à la vie tout entière. Il serait surprenant que notre auteur se soit mis ainsi en contradiction avec lui-même, lui qui a déclaré en termes si nets que les hommes et les sociétés sont régis par des lois, et qui s'est efforcé de les découvrir. D'autre part, il est fort peu vraisemblable que sa manière de voir se fonde sur une métaphysique quelconque. Il n'y a rien dans toute son œuvre qui manifeste quelque souci des problèmes métaphysiques. Nulle part il n'est question du libre arbitre. Aussi n'y a-t-il pas de raison pour que cette hypothèse philosophique ait eu chez lui une telle importance. Il y a d'ailleurs dans le premier chapitre du livre un passage qui s'oppose de façon évidente à cette interprétation. Montesquieu y dit que cette contingence n'est pas propre à l'homme. Il la trouve aussi chez les animaux et même les plantes lui semblent n'en être pas complètement dépourvues. Il nous avertit lui-même qu'il ne l'a imaginé qu'afin de pouvoir expliquer l'origine de l'erreur. Si nous ne commettions jamais d'erreur, nous obéirions en toute occasion aux lois de notre nature. Si l'on veut comprendre ce qui a amené Montesquieu à cette opinion, il faut d'abord déterminer ce qu'il veut faire entendre par la nature des choses. Par ce terme, il désigne non pas toutes les propriétés d'une chose, mais celles-là seulement qui contiennent en elles les autres et qui font que la chose est de tel ou tel genre. C'est-à-dire son essence. En outre, il pense qu'il existe un lien logique entre cette nature et les formes normales de la chose, de telle sorte que celles-ci sont impliquées dans la première. C'est pourquoi, s'il est vrai que les hommes et les peuples ne dérogent jamais à leur nature, ils seront toujours et partout tels qu'ils doivent être. Or, il existe dans la vie individuelle comme dans la vie sociale bien des imperfections. Il y a des lois injustes, des institutions défectueuses que les sociétés ont reçues des erreurs des législateurs. Tout cela, aux yeux de Montesquieu, semble indiquer chez l'homme une certaine faculté de s'égarer hors des lois de la nature. Ce n'est pas une raison pour que ces faits soient dépourvus de causes, mais ces causes sont fortuites et, pour ainsi dire, accidentelles. Elles ne peuvent donc se ramener à des lois. Elles corrompent en effet la nature des choses que les lois, au contraire, expriment. Assurément. Le principe d'où dépend toute cette argumentation est faux. Ces erreurs, en effet, dans la mesure où elles touchent à la vie sociale, ne sont pas autre chose que des maladies de l'organisme social. Mais la maladie fait partie de la nature des êtres vivants, non moins que la santé. Ces deux états ne sont pas au contraire entre eux. Ils appartiennent au même genre, de sorte qu'on peut les comparer, et que de cette comparaison, l'interprétation de l'un et de l'autre bénéficie. Mais cette opinion fausse s'accorde si bien avec l'apparence extérieure des choses qu'elle s'est maintenue longtemps jusqu'en physiologie. Comme il paraît évident que les êtres vivants sont naturellement en état de santé, on en conclut que la maladie, puisqu'elle fait obstacle à la santé, est une violation de la nature de la vie. C'est pourquoi Aristote déjà était d'avis que les maladies et les monstres et toutes les formes aberrantes de la vie étaient les résultats de quelques contingences obscures. La science sociale ne pouvait donc être affranchie sur le champ de cette erreur, d'autant plus que la maladie n'occupe nulle part une plus grande place que dans les sociétés humaines, et que l'état normal n'est nulle part plus imprécis n'est plus difficile à définir. C'est ainsi que s'expliquent plusieurs passages où Montesquieu semble doter le législateur de l'étrange pouvoir de faire violence à la nature elle-même. Par exemple, dans les pays où une chaleur excessive invite les habitants à la paresse, il prescrit au législateur de réprimer cette paresse par tous les moyens. Mais, bien que ce vice ait son origine dans des causes physiques, notre auteur ne pense pas que celui qui s'y oppose viole les lois de la nature, mais au contraire, qu'il ramène les hommes à leur nature normale, laquelle n'est pas compatible avec une telle indolence. C'est pour la même raison qu'il dit que, Chez les peuples qui ont un caractère fier et intrépide, il est nécessaire d'instituer des châtiments terribles pour contenir cette fougue du caractère. Dans tous ces cas, si le législateur possède un tel pouvoir, ce n'est pas que les sociétés soient sans loi et sans nature définie et puissent par suite être organisées selon sa fantaisie. C'est au contraire parce que son action est conforme à la nature normale des hommes et des sociétés et se borne à lui servir d'auxiliaire. Cette manière de voir n'implique donc pas de contradiction proprement dite et expresse. Montesquieu ne dit pas que c'est pour les mêmes faits sociaux qu'un ordre déterminé existe ou fait défaut. Partout où les choses sont normales, elles se font selon des lois nécessaires et cette nécessité ne cesse que lorsqu'on s'écarte de l'état normal. C'est pourquoi cette contingence ne détruit pas la science sociale, mais en limite seulement la portée. Car elle n'a guère pour objet que les formes normales de la vie en société, tandis que les maladies, selon l'opinion de notre auteur, sont presque en dehors de la science, parce qu'elles se situent en dehors des lois de la nature. La conception même qu'il se fait de la loi naturelle et que toutes ces idées supposent, conserve encore beaucoup d'obscurité et d'imprécision. Les lois sont en effet les rapports nécessaires entre les choses. Or, si elles peuvent parfois être violées, elles ne possèdent pas une nécessité réelle, mais une nécessité purement logique. C'est-à-dire qu'elles expriment ce qui est impliqué dans la définition de la société, mais que celle-ci peut affecter une autre forme de celle qui résulte rationnellement de sa nature. Elles nous apprennent, non ce qui est, mais ce qui est rationnel. Bien plus. Quoique Montesquieu, loin de penser que les hommes s'égarent toujours ou même souvent hors du droit chemin, et au contraire une sorte de respect spontané pour ce qui s'est trouvé confirmé par une expérience générale et prolongée, il admet pourtant que tous les individus d'un même genre présentent certaines anomalies. Il ne voit pas qu'il ne peut guère exister quelque chose d'universel dans toute une espèce qui ne réponde à des nécessités définies. Par exemple, bien que l'institution de l'esclavage ait été en usage dans toutes les cités grecques et italiques, il déclare qu'elle répugne à la nature de la République. Bien que le droit de répudiation appartienne exclusivement aux hommes, partout où les femmes vivent sous le régime de l'esclavage domestique, il réclame que dans ces mêmes sociétés, cette faculté soit accordée aux femmes seules. Il va même jusqu'à penser qu'il n'est qu'un genre de société, à savoir l'état despotique, qui est par lui-même quelque chose de défectueux et de corrompu, tout en reconnaissant lui-même qu'il est nécessaire en certains endroits. L'ordre qu'en de telles conditions la science doit rechercher n'est donc pas seulement autre que celui qui existe toujours et partout. Il peut arriver qu'il n'ait jamais existé. C'est pourquoi les lois qui le reproduisent ont nécessairement une forme idéale, car elles expriment les rapports des choses, non tels qu'ils sont, mais tels qu'ils doivent être. Elles ne sont pas inhérentes aux choses comme les autres lois de la nature, ou plutôt elles ne sont pas les choses elles-mêmes considérées sous un aspect déterminé. Elles les dominent de haut, bien que leur autorité ne soit pas toujours ni nécessairement respectée. C'est par là que Montesquieu revient pour une part à l'ancienne conception de la science sociale, mais pour une part seulement. Certes, ça et là, il lui arrive d'être tout près de confondre les lois naturelles avec les règles qui prescrivent ce qu'on doit faire. Mais il est bien loin d'imiter les anciens philosophes qui négligent la nature telle qu'elle est pour en instaurer une autre. Quoiqu'il n'ait établi à ce sujet aucun principe précis, il a instinctivement compris que c'est seulement dans de rares cas qu'une chose peut être universelle sans être en même temps saine et rationnelle. C'est pourquoi, comme nous l'avons vu, il a essayé de décrire et d'expliquer en se guidant sur l'histoire les espèces sociales, et il n'a osé les corriger que lorsqu'il découvrait quelque chose qui lui semblait ne pas s'accorder avec leur essence, telle qu'il l'avait tirée de l'observation de la réalité. Si donc, chez Montesquieu, la notion de loi naturelle ne s'étend pas à la vie sociale tout entière, elle s'applique cependant à la plus grande partie de celle-ci. Si son œuvre conserve encore, de l'antique confusion de l'art et de la science, quelque chose d'incertain et de vague, ce défaut ne s'y manifeste que par intervalles.